Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
L'année 2024 fut une étape importante dans la lutte mondiale pour la durabilité et le développement durable. Les nombreux progrès réalisés témoignent d'un engagement croissant des autorités, des entreprises et des citoyens face aux défis environnementaux et économiques. Toutefois, ces avancées sont contrastées par des obstacles persistants et des crises. Que retenir donc de cette année 2024 dans la sphère de la durabilité? Pour en parler, nous recevons notre confrère Pape Ibrahim Ndiaye, journaliste spécialiste de l'environnement. Bonjour cher Ibrahim et bienvenue dans le podcast de la durabilité.
Bonjour Ababacar, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Alors Ibrahim, quels progrès ont été réalisés en 2024 pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU?
Alors Ababacar, comme baromètre, je pense qu'on peut prendre ce rapport qui a été notamment publié au mois de juin 2024 par l'Organisation des Nations Unies, justement, qui porte sur les objectifs de développement durable. Ce rapport note effectivement quelques progrès dans la mise en œuvre des ODD, par exemple dans le domaine de la santé, la réduction de la mortalité infantile, des infections liées au VIH, dans l'accès à l'eau, à l'assainissement notamment, l'énergie aussi, de plus en plus, beaucoup d'Africains ont accès à l'énergie, et aussi à l'Internet. Mais sur le plan environnemental, disons, quand on parle des objectifs de développement durable, parce que c'est également crucial, on peut dire que les signaux sont au rouge à cause principalement du dérèglement climatique ou encore des conflits, disons, armés qui touchent beaucoup de régions du monde. Et la preuve, selon toujours ce rapport, Ababacar, de l'Organisation des Nations Unies, c'est 17 indicateurs de développement durable sur plus de 200 indicateurs considérés sur la bonne voie. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire effectivement quelques progrès ont été notés, mais ce sont des progrès, disons, minimes au regard du dérèglement climatique et surtout des enjeux qui sont urgents.
Et justement, Papa Ibrahim, concernant toujours cette dynamique, que retenir déjà aussi de la COP29 pour l'Afrique?
Oui, en 2024, beaucoup de rendez-vous internationaux liés au climat ont eu lieu. Bien évidemment, il y a l'autre baromètre, c'est la COP29 qui s'est déroulée à Bakou, en Azerbaïdjan. Et il a été retenu un nouvel objectif collectif quantifié de 300 milliards de dollars par an pour financer l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. Il est bon également de rappeler à Ababacar que c'était 100 milliards précédemment par an. Un montant, je n'ose pas dire c'est un échec, mais un montant, disons, insignifiant au regard des enjeux selon les représentants ou bien les pays en voie de développement qui réclamaient plus de 1 000 milliards de dollars. Ça n'a pas été atteint et c'est la raison pour laquelle ils ont estimé au regard de l'urgence climatique aujourd'hui, il y a nécessité de renforcer la finance. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé tout au long de la COP. Et un chiffre pour vous donner. Pourquoi il est urgent? Rien qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique du centre, en Afrique centrale, disons, plus de 700 000 personnes ont été affectées à cause des inondations cette année, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est un chiffre qui montre l'urgence de faire face au dérèglement climatique et de financer l'adaptation et la résilience des populations.
Et justement, par rapport à cette COP29, l'Afrique donc se sent un peu plus lésée face aux enjeux climatiques mondiaux, avec également la conférence des parties, donc tenue à Nairobi en 2024 aussi, qui devait être un tournant pour le continent africain, souvent en première ligne des impacts du changement climatique. Pourtant, malgré les espoirs suscités, cette édition a laissé un goût amer à de nombreux pays africains, relevant également des disparités persistante dans des engagements et des financements climatiques. Quelle analyse également faites-vous de cela?
Oui, à mon avis, je pense que les pays africains ont tenté, c'est d'ailleurs depuis des années, de parler d'une seule voix, ça c'est très bien, et d'y impliquer les pays, disons également, qui ont une certaine voix, telles que la Chine, l'Inde, de faire bloc pour faire avancer tout ce qui est lié au changement climatique, notamment le financement, parce que en fait, c'est ça en fait qui est crucial, le financement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de populations sur le continent qui sont touchées par les effets des changements climatiques. Donc, c'est normal que les pays puissent être déçus parce que, effectivement, ils s'attendaient à plus, disons, en termes de financement pour permettre aux populations impactées de faire face. Mais je pense que si nous continuons comme ça, à mettre la pression, à parler surtout d'une seule voix concernant les pays africains, à mon avis, je pense qu'on pourra peser sur la balance et faire en sorte que les pays industrialisés, les principaux pollueurs, puissent respecter les engagements en matière climatique.
Et justement, respecter les engagements en matière climatique, par rapport à ça, comment les émissions déjà de gaz à effet de serre ont-elles évolué en 2024 à l'échelle nationale et aussi mondiale, également, et quels secteurs ont été les plus concernés selon vous?
Alors d'abord, au niveau mondial, si vous voulez, hein, Ababacar, souvent c'est les principaux facteurs, disons, classiques qui sont souvent cités quand on parle de secteurs, disons, clés qui concernent les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, il y a les énergies fossiles au cœur du transport, de l'industrie, la production d'électricité, et bien évidemment les secteurs pas souvent cités, parfois, mais épargnés, mais qui est également assez pollueur, c'est l'agriculture dans nos pays. Et justement, au niveau national, si nous prenons l'exemple du Sénégal, il y a l'énergie, il y a l'agriculture, les déchets et les procédés dits industriels, selon en tout cas la contribution déterminée au niveau national. Vous le savez, la CDN, c'est la feuille de route, disons, pour chaque pays pour faire respecter notamment leurs engagements en corrélation avec ce qui avait été pris lors de la COP à Paris. Et pour vous donner juste également un chiffre, ici au Sénégal, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en 2010, tenez-vous bien, les émissions globales s'établissaient à 16 752 gigagrammes de CO2 équivalent. Et pour cette année, selon cette projection qui avait été faite sur la base notamment par le Centre de suivi écologique, qui chaque 5 ans établit l'état ou un rapport sur l'évolution de l'environnement au Sénégal et qui projetait déjà pour 2025, on aurait au Sénégal 32 648 gigagrammes pour cette année, selon ces projections. Et en même temps, ces projections vont aussi établir un autre chiffre, à mon avis, qui va nous servir de baromètre et qui est très important quand on parle des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Ababacar, c'est ce chiffre-là que je vais dire tout de suite. C'est 37 761 gigagrammes en 2030. Donc, si le Sénégal n'essaie pas disons, de redresser cette pente concernant les émissions de gaz à effet de serre, forcément, ça va monter en puissance et ça va causer problème forcément.
Et ça va poser des problèmes forcément. C'est également le cas dans plusieurs autres domaines. Il faut aussi le noter également dans cette même dynamique, comme je disais aujourd'hui également. Quels sont aujourd'hui les résultats qui ont été obtenus en 2024 dans la protection de la biodiversité et des écosystèmes naturels?
Alors, concernant la biodiversité, comme la COP29, on peut retenir vraiment cette rencontre internationale qui s'est déroulée à Cali, disons en Colombie, avec des objectifs précis qui ont été, disons, débattus tout au long de cette rencontre. Mais finalement, à Babacar, quelques progrès ont été notés, hein, tels qu'un fonds, notamment un mécanisme qui a été mis en place concernant le suivi. Le fait de mesurer les progrès accomplis par les pays dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la protection de la biodiversité, ça c'est bien. L'autre aspect qu'on peut retenir en termes de progrès concernant la biodiversité, c'est l'implication davantage des peuples autochtones, disons des communautés locales, dans la lutte contre la dégradation de la biodiversité, parce qu'effectivement, il y a un organe qui a été retenu lors de cette rencontre-là pour faire en sorte que leur voix puisse être davantage entendu quand on parle de biodiversité face au dérèglement climatique. Mais là également, Ababakar, il faut aussi le noter, hein, au cours des 50 dernières années, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies a diminué, tenez-vous bien, de 73%, comme le montre l'indice planète vivante de la part de l'organisation écologique WWF. Cela montre encore une fois, c'est bien, on pose des actes, mais il faut encore financer pour faire face à la dégradation, à la diminution, des animaux, notamment sauvages.
Et Papa Ibrahim également, il faut noter que 2024 a également été marqué par la Mauritanie et le Sénégal, qui entrent officiellement dans la liste des pays producteurs de pétrole et de gaz. Quelles perspectives et répercussions se profilent à l'horizon pour ces deux pays?
Alors d'abord, pour ce qui est de la production du champ pétrolier Sangomar, justement à Ababakar, il y a le rapport global qui vient d'être publié par le ministère de tutelle au Sénégal, qui parle de 16,9 millions de barils qui ont déjà été produits depuis le démarrage de son exploitation. Là, je parle du pétrole, le 2 juin 2024. Pour ce qui est du gaz, que partagent en effet, vous venez de le rappeler, le Sénégal et la Mauritanie, le premier puits du projet GTA au large de Saint-Louis, cette ville qui est au nord du pays, a été ouvert avec une capacité de production, de 2,3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié, ce qui est énorme. Là, c'est vraiment tout ce qui est angle perspective, et c'est la raison pour laquelle, Babacar, les deux pays considèrent ce projet comme un projet dit stratégique, c'est-à-dire ils vont tout faire pour que ce projet-là puisse effectivement porter les secteurs clés de développement du Sénégal et de la Mauritanie. Mais ça, c'est l'angle, disons, économique, l'angle stratégique. Mais il y a aussi un autre angle qu'il faut prendre en compte, à mon avis, ça concerne l'écologie. Parce qu'il y a effectivement des inquiétudes de la part de certaines organisations, des populations également, qui estiment qu'il faut davantage prendre en compte la voix des populations pour qu'au Sénégal et en Mauritanie, qu'on puisse avoir une exploitation, certes, qui va bénéficier des pays, mais qui va prendre en compte également les considérations écologiques et économiques.
Écologique et économique, toujours dans ce cadre économique qui parle de développement durable, parle également d'économie durable. Y a-t-il eu des avancées dans ce domaine, notamment pour les pays africains?
Oui, je pense qu'il y a de plus en plus, il y a une prise en compte, effectivement, de l'économie durable sur le continent, porté par des organisations, mais à travers également des mécanismes mis en place par les gouvernements pour faire en sorte d'avoir davantage, disons, de financements divers qui concernent le climat. Je peux donner l'exemple du Sénégal, qui par exemple est mis aujourd'hui sur le budget vert. Alors ce budget-là fait partie des documents annexés à la loi des finances initiale de 2024. L'objectif, c'est de faire en sorte de faire davantage d'efforts, prendre en compte tout ce qui est financement climatique, l'adaptation, la résilience notamment des populations. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais Ababakar, nous sommes dans une année où les CDN devront être, disons, publiés, parce que ça fait maintenant 5 ans. Et je pense qu'à partir de cela, on pourra faire une évaluation exhaustive et également revoir tout ce qui est perspective économique, tout ce qui est budget vert, financement vert, pour prendre en compte davantage dans les CDN certaines visions de l'économie. C'est le cas, par exemple, au Sénégal. Vous le savez, il y a un changement de régime. Qui dit changement de régime dit forcément, certaines considérations qu'il faut prendre en compte, parce que la CDN du Sénégal actuelle a été peaufinée sur la base du plan Sénégal émergent. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui vient de s'installer, et je pense qu'il y a urgence également que ce régime-là puisse prendre en compte sa propre vision Sénégal 2050 au plan écologique dans la CDN du Sénégal. Je pense qu'il y a d'autres pays africains qui font également des efforts, mais il y a également, quand on parle de l'économie durable, Babacar, cet aspect-là qui est important et que le Sénégal mise beaucoup là-dessus, les AMP, les aires marines protégées. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui misent sur l'exemple des aires marines protégées pour préserver les ressources halieutiques. Et je pense que le Sénégal compte aussi là-dessus pour ces années à venir. Et je pense que c'est justement une belle initiative à encourager.
Une belle initiative à encourager, bien évidemment, Papi Bahemadia. Je rappelle donc que vous êtes journaliste également spécialisé dans l'environnement et vous étiez notre invité aujourd'hui pour faire le point, un peu le bilan de l'année 2024 sur cette durabilité. Notez des avancées pour les pays africains, notamment le Maroc, qui également en 2024 s'est distingué comme un leader en matière de durabilité et de transition écologique, non seulement en Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale, mais aussi le Sénégal et la Mauritanie par rapport aux nouveautés qui ont été enregistrées en 2024. Merci encore à vous, chers confrères, à Papi Ibrahim Ndiaye. Merci encore de cette pertinence et merci aussi de nous avoir permis de faire un peu le bilan de cette question concernant le développement durable.
Merci beaucoup, Aboubakar, pour l'invitation et j'espère qu'on aura une année plus écolo en 2025. Et permettez-moi juste de dire
Allez-y.
Que l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, c'est bien, mais il faut disons que la rupture dont on parle au Sénégal puisse être prise en compte également dans l'implication ou bien dans la mise en œuvre des politiques écologiques dans notre pays, parce que c'est de ça en réalité qu'il s'agit. Exploiter, c'est bien, mais préserver avec l'exploitation, c'est encore mieux.
Et c'est même dans la préservation de cette exploitation qu'un pays peut également espérer à un développement durable. Merci encore à vous, Papi Ibrahim Ndiaye.
Merci et à bientôt.
Merci également à vous, chers amis de la durabilité, de votre confiance renouvelée à ce podcast. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.